Hop.
Tu vois.
Édition 2020.
Yvette a 95 ans. À Paris, dans la cour où elle était gardienne durant 64 années, elle vit dans un appartement dont elle ne peut plus sortir depuis 6 ans. Yvette a gardé ses habitudes de concierge. Elle adore regarder par la fenêtre et donner son avis à qui veut bien l'entendre. Yvette, court-métrage de Julien Potard, diffusé ce matin dans la programmation court-métrage. Nous sommes ravis d'accueillir Julien Potard et cerise sur le gâteau, Julien Gidouin, son chef opérateur, de Julien donc, accompagné par Marius et Lilian. Un retour sur ce court film, mais riche et assez tendu.
Bon, dans un premier temps, merci d'être là. C'est vraiment gentil de se déplacer pour le plateau radio du BTS.
Bah, merci de nous inviter.
Avec plaisir.
Alors, ma première question va être un peu celle qu'on doit poser assez souvent, mais comment s'est créée cette relation entre vous et...
Entre les deux Julien
peut être intéressant, mais en l'occurrence, c'était plutôt ma question entre vous et...
Et Yvette. Bah, en fait, il se trouve que Yvette, elle habite dans ma cour. J'habite dans la cour de Yvette, parce que c'est vraiment sa cour. Donc on habite dans le même immeuble. Comme je le dis en introduction, Yvette ne sort plus de chez elle. Donc moi j'avais pas eu l'occasion de la croiser physiquement. En vrai, j'avais beaucoup entendu parler d'elle. Et j'entendais le son de sa voix quand l'été les fenêtres sont ouvertes et qu'il y a des ouvriers qui gardent la voiture dans la cour. Ils n'ont pas le droit et Yvette se charge de leur rappeler. Donc elle les interpelle par la fenêtre et elle a une voix très particulière. Donc on reconnaît bien sa voix. Et puis comme je fais un peu de jardinage de temps en temps dans la cour, j'arrivais à l'apercevoir. Mais je l'avais jamais vraiment rencontrée. J'avais envie de la voir en vrai. Il y a un photographe aussi qui habite dans l'immeuble qui avait eu l'occasion de la prendre en photo chez elle, qui m'avait dit... Non, il n'avait pas prise en photo, parce qu'il faut savoir qu'elle refusait de se faire prendre en photo. C'est vraiment la première fois qu'elle acceptait qu'on la prenne en photo. Mais lui avait fait une série de photos chez elle, il m'avait dit que son intérieur était très intéressant. Et donc j'étais très curieux d'aller rencontrer Yvette et de voir son appartement. Et je me disais que c'était un bon prétexte d'amener mon copain Julien pour faire des images. D'immortaliser ce moment, quoi. Mais je savais pas trop ce qu'on allait en faire, parce qu'Yvette a 95 ans. On peut pas prévoir trop de choses avec une dame de 95 ans, donc on y allait vraiment en se disant bah on va voir. Et on a fait un film. Enfin,
un court métrage.
Voilà.
D'accord.
Parce que, alors, on a déjà bonjour.
Bonjour.
Moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Marius. Est-ce que c'est vraiment une volonté de faire un court métrage, ou est-ce que il y a eu des échanges et des rushs beaucoup plus longs et ça a été au final raccourci pour garder l'essentiel?
Il y avait effectivement un peu plus de matière, parce que moi. J'avais entendu beaucoup d'histoires sur Yvette, donc je lui demandais de me raconter ses débuts, quand elle arrive à Paris, quand elle travaillait dans les bars, voilà. Mais encore une fois, Yvette est âgée, donc ses souvenirs s'en mêlent un petit peu. Je pense qu'elle mélange plein de choses, et puis du coup, c'était pas très clair. C'était très compliqué de raconter une histoire, de raconter toute son histoire. Au début, c'est vrai que je voulais faire peut-être un format un peu plus long. Je voulais revenir, passer plus de temps avec elle, mais d'une, ça la fatigue beaucoup quand même. Un tournage avec trois personnes, c'est quand même pas anodin pour une personne de son âge. Et de deux, on s'est rapidement rendu compte qu'en fait c'est elle qui mène la danse, et en fait elle a 4-5 histoires en gros dont elle se rappelle très bien et qu'elle aime raconter à qui veut bien les entendre. Et donc c'est ces histoires-là finalement qu'elle a décidé de nous raconter et sur lesquelles on s'est concentré, parce que on est retourné la voir avec Julien pour faire un peu d'illustration de chez elle, et elle nous a raconté les mêmes histoires de la même manière. Donc en gros aujourd'hui voilà, c'est ça qui lui reste, c'est ça qu'elle a envie de raconter aux gens, c'est ça qu'elle a envie de transmettre. Donc on s'est concentré là-dessus pour pas trahir son propos, quoi. Voilà.
C'est dans le film, on voit un gros focus à un moment sur toutes les horloges qu'elle a chez elle. C'est important pour elle, cette question de la temporalité et du temps qui passe?
Alors, pas du tout.
D'accord.
Absolument pas. En fait, c'est un appartement qu'elle occupe un peu par hasard. Parce que, enfin, par hasard. Donc elle était, elle a été gardienne, mais elle était dans la loge de la gardienne pendant des années. Je crois que ça fait 6 ans maintenant qu'elle est au premier étage. Donc elle connaît les propriétaires de les propriétaires ont plusieurs appartements, comme souvent les propriétaires à Paris ont plein d'appartements dans le même immeuble. Et donc ils connaissent Yvette depuis tout le temps.
65 ans, si j'ai tout bien compris.
Enfin, depuis très très longtemps. Et donc, au départ, c'était le papa qui était propriétaire. Il a passé le relais à ses fils et il leur a dit « Ok, vous prenez la main. Par contre, Yvette, cet appartement-là, c'est le sien. Et jusqu'à ce qu'elle quitte définitivement cet appartement, elle paiera un loyer qui est un loyer dérisoire. » Donc, c'est pas son aparté. Quand elle est arrivée dans cet appartement, il y avait déjà toutes ses horloges. Donc c'est pas elle qui a décidé de... Mais elle les a gardées. Elle les a gardées et elle en a quand même enlevé. Aujourd'hui, le gardien actuel, qui s'appelle Laurent, que je remercie parce que c'est lui aussi qui a joué l'entremetteur pour que Yvette accepte d'être filmée. Il vient la voir tous les jours. Il a une relation très touchante avec elle. Et il en a enlevé des horloges. Il m'a dit au début, c'était incroyable. C'était pas vivable. Mais je lui ai demandé, elle s'en fiche, ça la dérange pas pour dormir parce que ça fait quand même du bruit. Ça sonne, ça fait des tic-tac dans tous les sens. Mais ça la dérange pas, elle. Mais c'est pas important dans sa vie, quoi. C'est pas elle qui a besoin de voir l'heure tout le temps. Il y en a qui marchent pas, des horloges chez elle, s'en fiche.
Il y a... Allô, allô. Il y a un point dont on a parlé tout à l'heure ensemble qui me semble vraiment intéressant et... qui plus est intéressant pour tous les élèves du BTS. Vous m'avez expliqué tous les deux comment ce film en fait était un... Bon, d'abord pour toi Julien, une... je ne vais pas dire une récréation, mais ça ne s'inscrivait pas du tout dans un programme conscient, une manière de sortir des circuits dans lesquels le monde professionnel nous met parfois, manque de temps, d'une exigence, et je le sais en particulier pour Julien Gilloin qu'on a croisé à d'autres moments... en particulier sur les gilets jaunes, sur les photographies que Julien pouvait faire en dehors de ses temps de travail, aussi pour réinterroger le sens de la prise du réel. Enfin, j'ai l'impression de trouver cette fraîcheur dans le film qui parle de ça, c'est-à-dire mettre au service toute l'exigence que vous pouvez avoir par ailleurs, mais d'une manière assez libre, atemporelle, sans pression, y compris prendre le risque de ne pas faire le film. Et finalement, dans un geste qui est très spontané, le retrouver ici, c'est-à-dire dans une plateforme qui semble être la plus professionnalisante. Ouais, et enfin, de tous les points de vue, je trouve ça assez beau.
Déjà, c'est vrai qu'on était les premiers surpris d'être sélectionnés parce qu'on l'a fait sans arrière-pensée. Quoi. Effectivement, comme tu disais, c'était un moment... En fait, on l'a un peu évoqué, Julien à côté de moi, Julien Gilloin, chef opérateur, a la particularité de faire de très jolies images. Donc j'aime beaucoup bosser avec lui. Et là, ça faisait un moment qu'on n'avait pas travaillé ensemble. Et on garde contact, on boit des cafés, on discute, on se parle de la vie. Et on se dit, tiens, ce serait bien qu'on retravaille un jour ensemble. Et puis, je sais pas, l'occasion ne s'était pas présentée. Et ce projet-là, que j'avais un peu en tête depuis quelques temps, à un moment, j'avais du temps, j'étais dans un moment où je bossais sur des projets qui ne m'excitaient pas vraiment. J'avais besoin de récréation, ou en tout cas de m'aérer la tête. J'ai proposé à Julien, il avait par chance un peu de temps aussi, et du coup il m'a accompagné, mais pour moi c'est sûr que c'était... je l'aurais pas fait sans Julien, quoi. Je l'aurais pas fait avec moi, une caméra comme ça. Non, j'avais besoin d'avoir les images de Julien. Mais je sais pas, toi, t'en penses quoi?
C'est sûr que, étant donné le contexte un peu professionnel qui nous entoure en permanence, où bien souvent les films sont tirés vers le bas en permanence, on a beau donner le maximum, notamment au documentaire, et encore plus quand on parle de documentaire de télévision. Donc si on peut se trouver des créneaux qui nous permettent d'être libres des histoires qu'on raconte et de s'exprimer à peu près correctement, je crois qu'il faut absolument prendre ces créneaux-là, il faut absolument faire ces films-là, tourner coûte que coûte, comme on dit. Après, étant donné que ce sont nos métiers, on ne se lance pas dans l'aventure n'importe comment, on a quand même l'exigence de choisir un matériel qui convient, etc. Là, on a tourné avec une caméra de cinéma, on trouvait que c'était important, on s'est donné les moyens de le faire. mais je sais pas si c'est une récréation, mais c'est le moment de prendre contact avec la réalité, comme tu disais, Julien, tout à l'heure.
Ouais, et puis on s'est aussi quand même entouré de gens. Enfin, on a effectivement. Enfin, quand on fait un projet comme ça, on le fait pas par-dessus la jambe, en fait. C'est pas parce que c'est une récréation ou je sais pas comment l'appeler, mais on le fait pas du tout par-dessus la jambe. Au contraire, moi, quand je fais appel à Julien, c'est parce que justement, je veux avoir un film de qualité. Julien, il appelle Camille, qui est ingénieur du son, dont on apprécie aussi le travail. Donc on réunit une équipe de tournage costaud, on fait ce qu'il faut sur le tournage, on récupère des belles images, on fait le montage, on fait appel à un étalonneur, Ishran, qui a fait un super boulot. Moi, je suis hyper content de ce qu'il a fait. On a fait mixer par un copain qui travaille, enfin qui mixe normalement des longs pour le cinéma. La musique a été composée par quelqu'un qui connaît Yvette, c'est mon voisin du dessous. Donc c'était simple. Mais pareil, qui est compositeur de musique pour le cinéma. Enfin, on a bossé qu'avec des gens talentueux et costauds, quoi. On avait vraiment même si on n'avait pas d'idée préconçue de savoir où on allait aller avec ce film. On voulait faire les choses correctement quand on a mis notre cœur là-dedans. Quoi.
Et en question de temps, vous avez mis combien à peu près ?
De temps de tournage ?
De tournage, montage, étalonnage, mixage.
Bah pour ma part, c'est deux petites journées, quoi. Deux petites journées, une journée de préparation.
On a bu des cafés quand même avant pour en parler.
Ouais.
On a bu. Allez, on peut rajouter une demi-journée de café.
Oui. Il y a de la préparation, discuter comment on tourne, vers quoi on se dirige, quel objectif, quelle caméra, les couleurs, comment on traite, est-ce qu'on tourne calmement, comment ça se passe et tout ça. Et puis après, le concret du tournage, quelques heures avec Yvette une première fois, et vraiment peut-être deux petites heures la fois d'après.
Ouais, c'est ça.
Et pour finir, excuse-moi, après moi j'ai une journée d'étalonnage, quoi, une petite journée avec un autre étalonneur que je connais très bien.
Et après, en fait, ça a été long parce que, comme encore une fois, c'est un projet sur lequel on n'avait pas de contraintes venant d'un client ou de je ne sais quoi. En fait, moi, comme je disais au début, j'avais aussi, à la base, peut-être une autre idée derrière la tête. Donc j'ai laissé les rushs pendant très longtemps dans un disque dur sans rien en faire. Jusqu'au jour où je retraverse une autre période où je me pose des questions et je me dis, tiens, je vais aller regarder. J'ai jamais regardé les rushs d'Yvette. Ça commence à faire un petit moment, je pense qu'il y a bien 6 mois qui sont passés, peut-être 5-6 mois, donc ça fait beaucoup. J'avais pas envie qu'on ait fait ça pour rien, quoi, que ça reste dans les tréfonds d'un disque dur et qu'on s'en serve jamais. Donc je me mets devant mon disque, commence à monter. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de montage et ça m'a pas réconcilié, j'étais pas fâché, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de remonter, de faire du montage à ce moment-là. Donc ça a été long, quoi. Il y a eu 6 mois qui n'ont servi à rien, mais qui en fait qui n'ont pas servi à rien, parce qu'en discutant avec Julien, ce qu'il me disait, il me disait en fait, parce que moi c'est ce que je disais, j'ai dit à 6 mois qui ne servent à rien, il me dit bah non, c'est des 6 mois où finalement ça mûrit, ça mijote, c'est hyper précieux d'avoir ce temps de réflexion, même si j'y pense pas au quotidien, forcément, il y a des choses qui se passent pendant ces 6 mois, et c'est quelque chose auquel on n'a pas accès dans nos boulots, quoi. Ça va toujours assez vite. Tourner, monter, valider, modifier, ça va vite. C'est rare d'avoir le temps de la réflexion. Et donc ça a fait du bien. Et après le montage, je suis pas le plus rapide. Encore une fois, c'est pas mon métier de base, mais j'ai pas mis trop longtemps. Et puis après, ouais, il y a une journée d'étalonnage et une journée de mix. Ça allait peut-être un petit peu plus, parce qu'il y a eu des petits allers-retours. Après, comme on travaillait à distance, c'était peut-être un petit peu plus compliqué que si on l'avait fait en direct. Et puis voilà.
Il y a un moment qui me revient en tête, je sais pas pourquoi il m'a marqué, mais du coup c'est toi le chef opérateur, mmh. Et c'est un moment de gestion de la focale et du flou sur
ouais.
Le moment où elle pose la télécommande.
Ah oui,
après
c'est vrai.
Avoir éteint
la télé.
La télévision, du coup.
Et après elle sort du champ.
Ouais.
J'adore ce moment, bravo, c'est... bravo de l'avoir noté, j'adore ce passage.
C'est un des plans préférés de Julien, c'est vrai.
J'adore.
Qu'est-ce qui te plaît du coup dans ce plan alors ?
Dans un premier temps, c'est la finesse technique de la gestion de la focale.
Ouais.
Et la continuité du plan.
Ouais.
Tu crées le flou. Donc tu en quelque sorte, tu retires la présence dans le cadre premier de Yvette, mais on la conserve quand même par sa présence dans le flou.
Ouais, ouais.
Puis elle sort pour faire la transition avec elle.
Je sais pas trop quoi te dire, mais je pense qu'on avait dû parler beaucoup des mains des vieilles personnes. Tu vois, quand on a préparé le film, on discutait beaucoup. Moi, j'ai suivi ma grand-mère pendant plusieurs années, pendant 4 ans, jusqu'à sa mort. Et je pense que j'ai dû faire beaucoup, beaucoup de plans comme ça. Et peut-être qu'à ce moment-là, inconsciemment, peut-être, je l'ai laissé un peu comme ça partir en restant un petit peu sur ses mains parce que, je sais pas, j'ai touché quelque chose qui d'inconscient chez moi, j'en sais rien. Mais... Après, techniquement, c'est n'importe quel chef opérateur serait capable de le faire. Et puis, et la douceur de l'image, elle vient du fait qu'on a décidé d'utiliser des vieilles optiques que j'ai achetées il y a un petit moment. Des vieux ingénieux, quoi. Couplé à cette caméra, ça marchait bien. Et le fait de la laisser sortir, je crois que c'était normal. On avait parlé un peu de hors-champ. C'est chouette de l'avoir noté.
Non, mais en plus, pour moi, c'est ce qui, justement, fait l'intérêt de ce plan-là. Enfin, moi, c'est ce que j'aime, quoi. C'est parce que, moi, au début, je faisais sur mes premiers boulots, quoi, je faisais mes images, je tournais mes images. Et à la place de Julien, là, moi, je suivais Yvette. Et c'est nul, en fait. On s'en fout de savoir où elle va. C'est tout l'intérêt. C'est super de s'arrêter là. Elle pose la télécommande et maintenant... Elle existe à travers la télécommande. Enfin, je sais pas, moi j'adore le fait que. Parce qu'effectivement, le hors-champ veut dire beaucoup. Enfin, je sais qu'avec Julien, on discute beaucoup de ces trucs-là, mais moi, quand je filmais, j'avais envie de tout filmer tout le temps, toutes les actions. J'avais peur de manquer. Et en fait, c'est pas comme ça qu'il faut travailler, c'est pas bien. Donc, du coup, moi, je sais que ce plan-là, j'ai dû le regarder, je sais pas combien de temps. Je l'adore, je le trouve super, hyper, hyper intéressant. Et pour moi, c'est vrai qu'il est anecdotique, mais c'est cool que tu l'aies noté parce que. Je lui en ai reparlé, en plus je lui avais dit ce plan, je l'adore. J'adore ce plan parce que pour moi il est vraiment représentatif de ce que peut faire Julien. Et, il a fait d'autres choses qui sont très jolies, mais en tout cas, ça c'est cool quoi.
Alors pardonnez-moi, on va devoir interrompre pour poursuivre avec le micro-trottoir de Kevin qui a trouvé une participante qui risque de partir. Je vous suggère, pour clore cette belle parole, cette citation de Georges de Beauregard, « Pensez avec les mains, l'esprit n'est vrai que quand il manifeste sa présence, et dans le mot manifester, il y a main ».